J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, t'y serais. Un fil de ma terre à sa brume, et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il roule, je sens le ras de l'aréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
Zaz et la pièce La Lune.
Actualité culturelle, c'est ça qui est ça. André Sauvé présente son troisième spectacle solo. On en parle dans le Journal de Montréal et aussi dans la presse. Véronique Lauzon, dans la presse, la boule dans le ventre qui force une personne à changer de métier, à larguer son amoureux, à changer de vie. Cette boule, André Sauvé la nomme ça. Et c'est de ça qu'il parlera dans son troisième spectacle solo intitulé Ça. CCDA. Ça est le titre du prochain spectacle d'André Sauvé qu'il présentera en rodage dès le 31 juillet. Dans la vie, nous entendons souvent qu'il faut écouter ça, dit André Sauvé en pointant son ventre. Ça a l'air donc beau dit comme ça. Mais quand tu le fais pour de vrai, c'est fréquent en maudit. Dans un long numéro, plus de 30 minutes, l'humoriste parlera du parcours qu'il a mené au métier d'humoriste. Il raconte notamment qu'il a été peintre en bâtiment pendant 2 ans. J'étais en plein milieu d'un contrat de peinture quand ça m'a dit en dedans « Ce n'est pas ça ta vie ». Et j'ai suivi ça. Je savais que si je n'arrêtais pas là, j'allais refaire des contrats encore et encore. Et tu vois, c'est un bon exemple de quelque chose dont on rit aujourd'hui, mais c'était extrêmement dramatique et émotif quand je l'ai vécu. « Hey, j'ai écouté ça », il pointe son ventre. Mais ensuite, ce n'est pas parce que tu sais que ce n'est pas ça ta vie que tu sais c'est quoi. Tu sais juste que ce n'est pas ça, dit-il. L'effet OSM. L'été dernier, André Sauvé a présenté un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Vu le succès de la démarche, il offre de nouvelles représentations le 24 mars à Québec et les 26, 27 et 28 mars à Montréal. Amateur de musique classique, l'humoriste est très fier de ce projet. « J'avais peur de me péter la gueule, je ne vous le cache pas. Mais je me suis souvenu de Maria Callas, dans une entrevue qui disait qu'elle choisissait souvent des œuvres qui lui semblaient impossibles à faire. Et quand ça semble impossible, on va chercher des ressources à l'intérieur de soi qu'on ne soupçonnait pas. Finalement, ça m'a fait un peu ça. Ça m'a changé comme événement », explique-t-il. Il reprend d'ailleurs quelques idées de ce spectacle musical dans « Ça ». Il ajoute que son expérience avec l'OSM lui a permis de parler de sujets plus intimes avec le public, ce qu'il continuera de faire dans son troisième spectacle. C'est dans sa maison dans les Alpes françaises qu'il a écrit pendant des mois son nouveau spectacle. « Je suis comme un ouvrier. 5 jours par semaine, dès 8h30, je suis devant le clavier. Le reste du temps, je vais travailler dehors dans le jardin. « Je vais suer », dit l'humoriste qui a reçu 3 oliviers pour son dernier spectacle solo, « Être », dont celui du meilleur spectacle de l'année. « Quand je prends mon café le matin et que je lève les yeux de ma presse plus, c'est un pic enneigé que j'ai devant moi. Et c'est comme ça à 360 degrés. Nous sommes dans le creux d'une vallée et ce sont de grosses montagnes », explique André Sauvé. Il poursuit « Je n'aurais jamais pensé vivre cette vie-là un jour. Mais vous voyez, ça fait partie du « ça ». D'écouter ça. Si nous lâchons prise et que nous suivons notre feeling, ça peut nous amener là. Tout ça, par contre, en ayant payé le prix de l'insécurité parce que chaque fois que nous tournons une page, on ne sait pas c'est quoi la suivante. Et au lieu de s'accrocher à ce que nous connaissons, on fait confiance à la vie. Ça prouve que ma théorie marche. Il faut écouter ça, dit-il en riant. Nous avons des problèmes de sangliers qui viennent dans notre cour. Ils viennent gruger chez nous. Vous voyez, ce sont d'autres enjeux que je vis dans mon quotidien. J'aime ça parce que ça m'amène complètement ailleurs. Et là-bas, les locaux, ce sont des fermiers. Alors, on ne discute pas de la même chose et c'est tant mieux. Ça me fait du bien. C'est ça l'équilibre, explique André Sauvé avec le grand sourire qu'on lui connaît. Il confie qu'il apprend beaucoup de la nature et qu'elle lui inspire des numéros. Dans le jardinage, je me suis rendu compte que nous ne travaillons jamais sur la plante. Tu travailles tout autour de la plante. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu l'arroses, tu la protèges du soleil, mais tu ne travailles pas dessus. Elle, elle fait sa job toute seule. Et ça, j'apprends de ça. Dans la vie, il suffit que je me mette dans un environnement qui favorise l'éclosion. Nous n'avons pas à travailler sur la chose. On travaille autour, dit l'humoriste, dont la première montréalaise de ça aura lieu le 9 octobre au Monument national. Dans le Journal de Montréal, c'est bluffant. La popularité de Christophe Maé a explosé après un passage à la télé. Le 10 mars dernier, Christophe Maé a été dépêché à l'émission de France Baudouin à Radio-Canada pour y interpréter la chanson préférée de vie adulte de l'invité Francis Rédé. Une invitation qui a pris le chanteur français par surprise. « Je n'ai pas imaginé une seule seconde que cette chanson allait toucher les gens à 10 heures d'avion de moi. » En fait, on ne peut jamais savoir quelle vie nos chansons vont avoir une fois qu'elles sont lancées. Mais à ce point-là, c'est bluffant, avance le chanteur. Évidemment, sa popularité au Québec a beau être grandissante, elle n'a encore rien de comparable à celle dont il jouit en Europe depuis une décennie, où il a vendu quelques 5,5 millions d'albums. Mais quelques jours ont suffi à ce que la vidéo de son passage à l'émission En direct de l'univers, partagée sur la page Facebook de l'émission, dépasse le million de vues. L'entrevue de Christophe Mahé avec le journal la semaine dernière a d'ailleurs dû être retardée momentanément par un fan qui, l'ayant reconnu dans le lobby de son hôtel, a insisté pour prendre une photo avec lui. « J'étais loin de m'attendre à ça. J'ai l'impression de revivre les premières années de ma carrière en France », souffle-t-il. Déjà de retour dans sa France natale, Christophe Mahé ne tardera pas à revenir dans la métropole. Après une visite éclair la semaine dernière, le chanteur est attendu à l'Olympia de Montréal en mai pour deux concerts, ses premiers en sol québécois. D'ici là, il ira à la rencontre du public américain dès le mois prochain pour une courte tournée qui l'amènera, entre autres, à Los Angeles, San Francisco et New York avant son arrêt à Montréal. « J'ai toujours rêvé de faire voyager ma musique et d'aller essayer de séduire de nouvelles personnes à l'étranger. C'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, qui entretient cette flamme que j'ai en moi », confie Christophe Mahé, qui sera en spectacle à l'Olympia de Montréal les 5 et 8 mai. Black Panther s'agrippe fermement au sommet du box-office nord-américain pour la cinquième semaine de suite, résistant aux assauts de Lara Croft, entrée avec Tomb Raider directement à la deuxième place ce week-end selon la société spécialisée Exhibitor Relations hier. Le film de Ryan Coogler devient ainsi le premier depuis Avatar en 2009 à tenir le sommet du podium pendant cinq semaines. Il a récolté 27 millions de dollars américains ce week-end, ses recettes totales depuis la sortie en Amérique du Nord atteignant désormais 605,4 millions. Black Panther a passé la barre du milliard de dollars de recettes mondiales dès la semaine dernière.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux. Y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Le bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, ouais. on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con, le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Et c'est Christophe Maé qui nous le dit. Il est où le bonheur? Il est là.
Sujet libre, la presse auto de Studebaker à Lexus. Denis Arcand est l'un de nos plus grands cinéastes. Il a notamment remporté le César du meilleur film et l'Oscar du meilleur film étranger pour Les Invasions barbares en 2004. Des prix Génie pour Le déclin de l'Empire américain, Jésus de Montréal. Les deux films ont également été finalistes aux Oscars et Les Invasions barbares. Dire que sa pire voiture a failli interrompre l'un de ses tournages importants, point de suspension, c'est un article de Mathias Brunet. La voiture qui a marqué mon enfance. Les Studebaker de mon grand-père. Il y en a qui disent Stud, mais chez nous, par chez nous, on disait Studebaker. Alors, elles avaient fière allure. Mon grand-père, qui était pilote du Saint-Laurent comme mon père, nous emmenait, mon frère Bernard et moi, manger des cornets de crème glacée au restaurant chez Paul au Grondine à la fin des années 40, début des années 50. Ma première voiture, une Volkswagen Beetle 1962 de couleur crème. Mon père m'avait prêté l'argent après la signature de mon premier contrat à l'ONF. Je l'ai gardé 2 ans. Mon père me l'a ensuite rachetée pour la laisser au port de Trois-Rivières où elle lui était utile. C'est après que j'ai acheté une MGB noire, la première à Montréal, qui a été la seule histoire d'amour que j'ai connue avec une voiture. Un amour malheureux d'ailleurs. Elle me coûtait une fortune, ne démarrait pas l'hiver, mais elle était orgasmique dans les virages. Je l'ai gardée 3 ou 4 ans et je l'ai revendue, le cœur brisé. Ma pire voiture, une Dodge achetée très usagée dont le moteur a explosé à l'aube sur l'autoroute 40 lors du premier jour de tournage de Réjane Padovani. Un assistant réalisateur est venu me chercher, il a convaincu Renault de nous prêter un modèle sport pour le reste du tournage, sous le prétexte qu'on verrait l'auto à l'écran. En fait, je pense qu'on la voit 3 secondes. La voiture de mes rêves, la voiture que j'ai en ce moment, une Lexus hybride. Elle est fiable, tranquille et discrète. J'essaie de l'imiter. Dans la section débat, Requiem pour le cheval à Montréal. C'est un texte de Richard Bergeron, PhD urbaniste. Valérie Plante entend bannir les calèches de Montréal, renonçant par le fait même à la construction d'une écurie municipale. Si elle donne suite à cette décision, le cheval disparaîtra de Montréal. Je soutiens qu'il faut plutôt revaloriser le rôle des chevaux dans notre ville. Craig Sauvé, responsable du dossier, soutient que Projet Montréal a toujours plaidé pour le retrait des calèches à Montréal dans le Devoir 21 décembre 2017. Cette affirmation est contraire aux faits. Le débat a pris place en 2007 par le biais de l'approche commerciale de l'administration Tremblay, voulant qu'en réduisant le nombre de véhicules en circulation, les revenus de chaque exploitant devraient progresser et leur permettre d'offrir un meilleur service. J'ai rétorqué au conseil municipal, si l'on suit cette logique jusqu'au bout, il ne restera plus qu'une calèche en 2020 et son coût de location sera de 1 000 $ l'heure. Mais comme une centaine d'Américains fortunés consentiront à payer ce tarif, l'administration s'exclamera « L'industrie de la calèche est enfin rentable à Montréal ». Ce ne fut bien sûr pas là mon seul argument. J'ai soutenu que le cheval avait été au cœur de la ville des Montréalais et du développement de leur ville durant 300 de ces 375 années d'existence, ce qui fondait le concept de patrimoine vivant. J'ai évoqué le charme que le cheval conférait au Vieux-Montréal. Je me suis désolée qu'il ne subsiste plus de présence du cheval à Montréal que par le biais d'une activité à la forme presque honteuse, néanmoins à fort prix, et de ce fait pratiquement réservé aux touristes. J'ai parlé des yeux des enfants qui s'illuminent dès qu'ils aperçoivent un cheval. J'ai soutenu que tout enfant grandissant à Montréal devrait au moins une fois avoir l'occasion de faire un tour de calèche. J'ai relaté le plaisir infini de ma fille et des amis conviés à son 8e anniversaire quand, regardant par la fenêtre, elles ont vu deux calèches qui les attendaient devant la maison. Enfin, j'ai proposé d'enrichir l'approche commerciale par des volets culturels et éducatifs, ne se limitant pas à la seule question des calèches, mais cherchant plus largement à valoriser le patrimoine équin de Montréal. Cet argumentaire conduisait logiquement à la proposition de construire une écurie municipale, jouxtée d'un centre d'interprétation de la contribution du cheval à l'histoire de Montréal, en plus de nous inviter à identifier les divers moyens par lesquels augmenter et valoriser la présence des chevaux dans la vie quotidienne des Montréalais. J'ai tenu de tels propos chaque fois qu'il a été question des calèches au conseil municipal. La proposition numéro 1 du mémoire de Projet Montréal lors de la consultation publique de l'OCPM sur l'avenir du Vieux-Montréal fin 2012 était titrée « Revalorisation du cheval en tant que composante du patrimoine vivant de Montréal ». Le fait est que ce n'est qu'après l'élection de Mme Plante à la direction que Projet Montréal a fait un virage à 180 degrés, au motif que les calèches constitueraient une forme de cruauté exercée contre les chevaux. Durant 300 ans, dans toutes les situations imaginables, les Montréalais ont fait travailler leurs chevaux. Pas seulement les Montréalais durant 300 ans, mais l'humanité entière durant plusieurs millénaires. Et l'on viendrait nous dire aujourd'hui que tirer une calèche est une cruauté pour ces fragiles bêtes? Ceux qui souhaitent la fin des calèches propagent une image bucolique de ce qu'il adviendra des quelques dizaines de bêtes qui, selon eux, souffrent présentement le martyre dans les rues de Montréal. Elles seront recueillies par de véritables amoureux des animaux, vivront au grand air, s'ébrouilleront et paîtront dans des champs luxuriants et recevront tous les traitements médicaux et marques d'affection imaginables. Sans doute que quelques chevaux connaîtront ce sort enviable, mais la réalité demeure que la plupart prendront le chemin de l'abattoir. Car c'est oublier que nous vivons à l'ère de l'utilitarisme, voulant que ce qui ne nous est pas utile cesse d'exister. Au retrait de la dernière calèche de nos rues, le cheval aura définitivement fini de nous être utile. Pas seulement les bêtes qui vivent aujourd'hui, mais également la longue suite des générations qui pourraient naître et vivre si nous, les humains, avions à cœur de respecter cette forme attachante et noble, s'il en est une, du vivant, et avions l'intelligence de renouveler son utilité. Le jour où le tout dernier cheval disparaîtra des rues de Montréal, je verserai une larme. Pas vous? La routine santé de Jacinthe René. La comédienne et femme d'affaires Jacinthe René dit d'abord être en forme grâce à son alimentation 100% bio et végétalienne, mais surtout parce que ses trois enfants âgés de 2, 8 et 14 ans la gardent constamment en action. En les suivant et en les portant, c'est de cette façon que je reste en forme et ça me permet aussi de muscler le haut de mon corps, indique celle qui chapeaute trois maisons Jacinthe spécialisées en santé, beauté et bien-être, dont une à Québec. Son activité physique préférée reste la nage. L'été, Jacinthe René nage tous les jours. Je nage jusqu'à ce que mes doigts gèlent. De plus, pendant la belle saison, l'entretien de sa terre la garde très active. En revanche, l'hiver, elle privilégie l'entraînement à l'intérieur. Jacinthe René ne se fixe pas d'objectif précis. Mon seul objectif est de garder la forme et un bon tonus musculaire, de me sentir bien, raconte la mère de famille. Pour la comédienne, s'adonner à ses activités physiques quotidiennement doit se faire de façon naturelle. Avec sa trentaine d'employés à gérer, ses deux nouvelles maisons à venir, sa web télé et la publication de ses bookzines, Jacinthe René commence souvent ses journées avec quelques minutes d'étirement. Mais surtout, la comédienne, femme d'affaires et mère compte sur son alimentation sans faille pour maintenir une bonne santé. Et elle est plus qu'heureuse de partager ses trucs pour bien manger. Végétarienne depuis 28 ans et végétalienne depuis quelques années, Jacinthe René se nourrit essentiellement d'aliments bio, frais et vivants. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 19 mars 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute et je vous invite à continuer de nous écouter si vous êtes en direct et par actualité suivent. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.